Chapitre 3. Bon appétit. Sabi, Zizo et Pépin marchaient le long des quais de Seine, sous les grands saules qui poussaient au bord du fleuve. Leurs branches interminables, jamais taillées, tombaient dans l'eau, alors que leurs racines soulevaient et écartaient les pavés du quai. Ils croisaient beaucoup d'autres ados qui, comme eux, se dirigeaient vers le tipi. Sous les quatre pieds de la tour se tiendrait, dans quelques minutes, la grande fête du Champ de Mars. Le conseil avait décidé d'y organiser un grand banquet, précédé d'un grand discours, pour fêter le jour du birthday. Sabi ne se donnait pas la peine de tenir la main de Pépin. Si le moineau voulait à nouveau s'envoler, qu'il le fasse. Elle n'allait pas lui attacher des boulets autour des pattes. De toute façon, le garçon semblait n'avoir aucune envie de filer dans la nature, n'ayant sans doute aucune idée de l'endroit où Mordelia et Bill avaient bien pu se réfugier. Il paraissait au contraire fasciné par tout ce que Sabi lui apprenait.
« Donc, »
continuait Sabi,
« comme je t'ai dit, j'ai inventé le ministère du temps passé à ne rien faire. Tu as vu ? Ces affreux du conseil n'ont même pas voulu graver sur la plaque de la rotonde d'Apollon le nom de mon septième ministère. Alors que je peux te le dire, c'est de loin le ministère le plus populaire. »
Il descendait l'avenue Cours-la-Reine. Zizo se souvenait des premières fois où il avait exploré les rues de la ville. À cette époque, il se demandait pourquoi certaines maisons possédaient des façades de pierre et d'autres de verre. Il n'avait compris qu'il y a quelques mois qu'il s'agissait de vitrines, et que beaucoup de rues dans le monde d'avant le passage du nuage se résumaient à une succession de magasins.
« Tiens, regarde, Pépin la pomme, ça ne te dirait pas de porter ça plutôt que ton costume de moineau gris ?»
Sur le trottoir d'en face, deux filles, Lunella et Suzy, installées face au miroir d'une petite boutique, se déguisaient. L'une posait un chapeau en forme de pyramide sur sa tête, pendant que l'autre accrochait à ses oreilles deux minuscules tipis. Leurs visages, couverts d'une crème blanche mise au point par Lunella, à base de pétales de magnolia, rappelaient ceux des peintures de la grande galerie des poussières. En contraste, leurs yeux, maquillés de noir, imitaient le regard d'un animal sauvage, louve et panthère.
« C'est la nouvelle tendance !»
commenta fièrement Sabi.
« La lolimode ! On mixe nos deux cultures, plus des trucs japonais, africains, mexicains, tout ce qu'on arrive à récupérer dans les anciens magasins. »
Une nouvelle fois, Pépin écarquillait les yeux, comme si, pendant son séjour dans le camp de la sorcière, un nouveau nuage était passé et qu'un nouveau monde avait été inventé.
« Et si ça te dit, n'hésite pas !» continua Sabi. « Le relooking est gratuit et pas interdit, même si ça défrise Isalis et la plupart des autres ministres. J'ai même proposé de redécorer le fauteuil roulant de Génor. J'ai retrouvé des archives des défilés avant le nuage. Ils appelaient ça la Gay Pride. » Je peux te dire qu'on est sage à côté de ce qu'osaient nos parents. Alors, mon moineau, ça te tente de changer de plumage ?
Non, non, merci,
bredouilla Pépin. De toutes les façons, Sabi se fichait de sa réponse. Elle ne l'écoutait déjà plus et avait traversé la rue. Elle poussa la porte de la boutique.
Lunella ? Suzette ? Vous en avez fini avec Sa Majesté ?
Les filles acquiescèrent d'un signe de tête. Sabi se retourna vers Pépin.
Va pas croire qu'on se contente de se déguiser au ministère du temps passé à ne rien faire. On a des tas d'autres activités très sérieuses, comme organiser des concerts sauvages, peindre sur les murs de la ville, crier de la poésie en haut des toits, improviser des pièces de théâtre. Nous ne respectons qu'une seule règle, mon Titi, n'avoir aucun interdit. On prend le meilleur de chaque tribu. On garde tout ce qui nous plaît dans le monde d'avant, pour imaginer celui de demain. Aucun préjugé, totale liberté. Regarde la ville. Non, mais regarde, on a tout à inventer.
Zizo s'appuya contre la vitrine de la boutique, observant avec amusement la stupéfaction du moineau. Il avait souvent discuté de toutes ces questions avec Alix et Sabi, lors de soirées interminables où la Lolly Girl défendait la rupture avec toute règle imposée, sans aucune concession. Selon elle, seule une tolérance totale pouvait garantir un monde de paix. Zizo comme Alix s'étaient partagés. Selon eux, Sabi était trop idéaliste, trop jusqu'au boutiste. Il fallait bien des règles, organiser les cours, le travail et les corvées, poser des limites, punir ceux qui les franchissaient, discuter, voter, puis respecter ce que pensait la majorité. Ils adoraient ces discussions sans fin jusqu'au petit matin. Ils arrivaient sur l'esplanade du Trocadéro, face au Champ de Mars et au Tipi. La plus belle vue de Paris. La tour enjambait la longue prairie qui paraissait s'étendre à l'infini de l'autre côté du fleuve. Les arbres fruitiers plantés quelques années auparavant, cerisiers, pommiers, poiriers, pruniers, étaient couverts de fleurs que le vent libérait et soulevait en papillons roses et blancs. 200 ados attendaient, assis dans l'herbe, devant une vaste estrade. Des tables avaient été dressées, recouvertes de nappes blanches, en prévision du banquet. Le public riait, chantait, chahutait, impatient que commence le grand discours, et espérant qu'il ne dure pas trop longtemps. Raté. Tous ceux qui pensaient qu'Alix et Eugénor ne prononceraient que quelques mots et qu'ensuite tout le monde pourrait se jeter sur le festin qu'Honora préparait depuis des mois, durent déchanter. Chaque ministre monta tour à tour sur l'estrade pour présenter le bilan de son action. Jean d'Arc, pour le ministère des Punitions, fut relativement bref. Il ne fit aucune allusion à l'expédition de la nuit contre Mordelia, mais rappela l'importance de l'entraînement et de la discipline des soldats. Seuls certains d'entre eux, après un examen spécial, avaient le droit d'être armés d'un arc. Tous les autres se contentaient d'un bow. Il précisa enfin que, si le ministère des Punitions était parfois contraint d'emprisonner certains ados à la conciergerie, sur l'île du Sanctuaire, ce n'était pas par plaisir, mais pour les protéger d'eux-mêmes. Personne ne pouvait être enfermé sans un vote du Conseil, et jamais plus de 3 jours. D'ailleurs, en un an, précisa-t-il, moins de 10 cas de vol ou de violence avaient nécessité une telle mesure d'isolement. Liu, à l'inverse pour le ministère des Inventions, parla très longuement. Il passa en revue la totalité des travaux réalisés par les savants depuis un an. Il est vrai que le bilan était impressionnant. L'électricité fournie par le soleil de fer avait été remplacée par des moulins installés au fil du fleuve afin de chauffer et d'éclairer le château, mais aussi les 2 premiers étages du tipi. Plusieurs moyens de transport avaient été expérimentés, notamment des vélos qui permettaient de se déplacer plus rapidement entre le tipi et le château. Les chutes, lors des premiers tours de pédale, avaient pourtant dissuadé beaucoup de volontaires. Depuis un mois, une équipe de savants travaillait à essayer de faire rouler les automobiles, dont les carcasses rouillaient aux 4 coins de la ville. Quand Liu quitta l'estrade, le public pensait avoir fait le plus dur. Loin de là, Isalis, la ministre du temps passé, monta à son tour, l'air pincé, habillée d'une étrange robe rappelant celle des reines dans la galerie des grands tableaux, et portant une haute perruque blanche sur la tête, plus ridicule encore, pensa Zizo, que les coiffures inspirées par la lolimode. La ministre se lança dans un interminable sermon pour rappeler de protéger l'héritage de Marie-Lune, et donc le patrimoine confié par les générations passées. Pas une fois pendant son discours, elle ne posa les yeux sur un des ados du tipi, comme s'ils étaient incapables de comprendre ce qu'elle racontait, et encore moins d'apprécier la beauté d'un tableau de la Renaissance, de la façade sculptée d'une église, ou d'un air de piano joué à l'opéra, une salle qu'elle avait ouverte il y a 3 semaines, uniquement réservée à 10 d'invités, tous issus du château, qu'elle considérait comme les singes les plus doués. Le public s'endormait. Il se réveilla quand Solario apparut pour présenter son ministère des voyages. Il fut le plus bref de tous, il n'avait rien à dire, sauf que l'Albatros était presque prêt. Il ne restait plus qu'à trouver un moyen pour faire passer les mâts du bateau sous les ponts. L'équipage avait été choisi, les cartes d'Osman et de Braza étaient tracées, il pourrait bientôt larguer les amarres, et ce serait, Solario avait des sanglots dans la voix en prononçant ces mots, le plus beau jour de sa vie. Tous partageaient son émotion à quelques jours du grand départ. Tous, qu'ils soient du château ou du tipi, se posaient depuis toujours la question « Était-il seul au monde ? Existait-il d'autres enfants, quelque part, ailleurs ?» L'enthousiasme retomba aussitôt quand Vanille, la ministre du jour et de la nuit, prit la parole. Au grand désarroi des 200 ados, elle déroula, dès qu'elle posa le pied sur l'estrade, un très long rouleau de papier qui tomba jusqu'au plancher.
« Elle ne va quand même pas lire tout ça »
pensèrent-ils. « Eh bien si, et même pire, elle n'allait pas seulement aligner les mots, mais aussi les chiffres. » Vanille s'était occupé pendant des années de l'intendance du tipi, en organisant la gestion des stocks et des tours de corvée. En moins d'un an, elle avait su se rendre tout autant indispensable à ceux du château. Cette petite blonde toute fine, qui continuait de pousser en tige, ne paraissait aimer que les tableaux de chiffres. Elle avait très vite rejoint le pavillon des savants et assimilé en 3 mois les notions d'économie que les autres enfants avaient mis 6 ans à comprendre.
« Depuis le précédent birthday, » annonça-t-elle, « la consommation de carottes s'élève à 14 tonnes, soit 1,16 tonne par mois et 70 kilos par personne. En comparaison, celle de pommes de terre monte à 29 tonnes. Je voudrais pas paraître alarmiste, mais nous avons consommé seulement 5 tonnes de betteraves et 3 de choux. »
Elle continua ainsi à détailler le bilan alimentaire de l'année, sans accélérer le débit, soulignant même les points sur lesquels il était possible de faire des économies. La consommation de citrouilles semblait anormalement élevée entre la fin de la trêve et la veillée du sanctuaire. Puis, elle passa avec la même rigueur aux autres postes de l'intendance. Les vêtements, les draps, les savons, les serviettes, les casseroles, les ampoules et les bougies. Maintenant que l'électricité était rétablie, la consommation de bougies, s'étonna-t-elle, aurait dû diminuer. Et elle alla même jusqu'à calculer le nombre de mètres de rouleaux de papier toilette consommés. 63 kilomètres, soit 173 mètres par personne et par an. Pour autant, le papier toilette était l'une des innovations apportées par ceux du château les plus appréciés par les ados du tipi, habitués depuis qu'ils étaient nés aux feuilles de platane et de marronnier. On en était au nombre de balais, de balayettes et de pelles par pavillon, par étage et par dortoir. Presque tout le public s'assoupissait, assommé par le soleil au zénith qui frappait le Champ de Mars. Sur l'estrade, Liou et Solario bâillaient. Jean d'Arc se tenait droit comme un i, mais on aurait pu jurer qu'il possédait une technique pour dormir debout les yeux ouverts. Agnelle avait levé le visage vers les oiseaux qui se posaient sur les poutres du tipi. Seule Isalis observait Vanille, impressionnée, comme s'il lui paraissait incroyable qu'une fille du tipi puisse déployer autant de compétences. Lorsque le monologue de Vanille s'acheva, on en était déjà à plus de 2 heures de discours. Ceux qui n'étaient pas encore endormis lorgnaient avec envie les tables blanches et vides du fameux banquet. Les ventres gargouillaient. L'arrivée d'Agnel, ministre des plantes, des animaux et de la terre et dernier ministre du gouvernement, fut accueillie avec méfiance. Même si on le savait d'ordinaire peu bavard, voire presque toujours muet, occupé qu'il était à observer la nature et les animaux. Les sceptiques avaient raison. Agnelle, contre toute attente, peut-être impressionnée par l'imposant discours de la ministre précédente, se mit à énumérer la liste des espèces menacées, par rupture de la chaîne alimentaire suite au passage du grand nuage. Les mésanges charbonnières, les mulots à collier, les bousiers communs, les lapins béliers, les grenouilles taureaux. Cette fois, plus personne ne l'écoutait. Agnelle dut s'en rendre compte. Il haussa soudain la voix, réveillant d'un coup l'assistance, surprise.
« La menace est toujours là !»
cria-t-il de toutes ses forces.
« Ne l'oubliez pas !»
Presque tout le monde se mit à l'écouter. Il était si rare de voir ce rêveur d'Agnelle s'énerver.
« N'oubliez pas que nous ignorons toujours pourquoi les animaux sont tombés malades !» Bien avant la chute du soleil de fer, bien avant que le sang jaune ne s'en échappe, le mal est reparti comme il est venu. Mais nous ignorons son visage, et si nous ne savons pas d'où il vient, qui il est, cela signifie qu'il peut revenir, n'importe quand, n'importe où.
Malgré le soleil, une vague glacée parcourut les enfants assis sur la pelouse du Champ de Mars. Le sang jaune était leur pire souvenir. C'est lui qui avait provoqué la guerre il y a 1 an. Tous voulaient l'oublier, tous voulaient croire qu'il ne coulerait plus jamais. Et qu'Agnelle n'était qu'un oiseau de mauvais augure. À trop observer les bêtes, il voyait le mal partout. La tension devenait palpable sous l'effet conjugué du soleil brûlant, de l'attente, de la faim, de la soif. Les organisateurs du grand discours durent le percevoir et dès qu'Agnel eut fini son discours, d'ailleurs peut-être même ne l'avait-il pas terminé, les trois chefs du gouvernement firent leur entrée sur l'estrade sous les acclamations des ados qui, cette fois, comprenaient qu'on touchait à la fin. La reine, Alix, portait une incroyable robe vert prairie assortie à une couronne de coquelicots qui s'accordait avec le magnifique maquillage de papillon recouvrant ses yeux, l'œuvre de Lunella et Suzy, de la pure Lolimode. Elle poussa sur plusieurs mètres le fauteuil roulant d'Augénor, son conseiller, dont le discret salut de la main fut bien moins acclamé que celui de la souveraine. À Cannes, le secrétaire général de la paix s'avança à son tour, dominant la reine et son conseiller de plus de trois têtes. Il avait enfilé une élégante chemise ivoire en contraste avec sa peau d'ébène, dont les manches longues dissimulaient les blessures de la nuit passée. Les ados du tipi firent un tonnerre d'applaudissements à leur chef, et, dès que le vacarme s'atténua, plusieurs filles se mirent à siffler sans qu'Akane parvienne à identifier quelle mutine en était à l'origine. Le public retint son souffle, espérant qu'aucun des trois n'allait se lancer dans un nouveau long exposé. Il y eut un moment de silence, de protestation muette, avant que l'inattendu ne se produise. Un quatrième invité s'avança sur la scène. Un invité à quatre pattes et tête plate. Le petit chiot blanc et noir se frotta d'abord aux jambes d'Akane, et soudain, apercevant le fauteuil d'Augénor, fit trois bonds et sauta sur les genoux du conseiller, pour ne plus en bouger. Tous les ados éclatèrent de rire et applaudirent, autant amusés par le culot du chiot que par le visage stupéfait du conseiller. Alix en profita pour prendre la parole.
« Je n'ai que deux mots à vous dire. »
Des centaines d'yeux pleins d'espoir la fixèrent.
« Bon appétit !»
Et une tempête d'acclamations retentit sur le champ de Mars à en faire trembler les poutres du tipi.
« Tu ne manges pas ?»
demanda Chrysanthe. Si on lui avait demandé de parier sur le premier ado qui quitterait le banquet, Gulo-Gulo était le dernier sur lequel Chrysanthe aurait misé. L'ado, habituellement si gourmand, se tenait pourtant devant elle, se balançant d'un pied sur l'autre. Chrysanthe s'était assise à l'écart de la fête, dans l'herbe, sous un cerisier en fleurs. Lali était installée à côté d'elle, une petite serviette nouée autour de son cou de porcelaine. Toutes les deux se tenaient devant une soucoupe, où étaient disposés avec harmonie une dizaine de grains de riz, cinq petits pois et une tomate cerise. Le festin de Chrysanthe, à partager avec sa poupée.
« Je peux te parler ?» marmonna Gulo-Gulo en s'avançant plus près d'elle. Derrière eux, la fête battait son plein. Honora, aidée d'une dizaine d'apprentis singes cuisiniers recrutés à l'occasion du birthday, avait préparé un banquet comme nul n'en avait sans doute connu depuis que le nuage mortel était passé. Il l'avait anticipé depuis un an, demandant aux chasseurs-cueilleurs les plus expérimentés du tipi de lui rapporter des plantes aromatiques rares, des champignons et des baies. Des plantations du verger avaient été surveillées depuis plusieurs mois pour que fruits et légumes arrivent à pleine maturité le jour J. Le conseil avait toléré qu'on serve de la viande et en mangerait qui voudrait. De toutes les façons, au château, seuls quelques ados, surtout des soldats, osaient toucher à la chair d'animal. Même Sabi avait renoncé à sucer ses cuisses de poulet à partir du moment où ce n'était plus interdit. À l'inverse, beaucoup d'ados du tipi s'étaient convertis au plat d'Honora, bien plus raffiné que les moutons, chèvres ou cochons pas assez cuits ou trop grillés. Tous, dès que les plats avaient été servis, s'étaient précipités sur le pop-corn, les amandes grillées, les chips salées et sucrées, les lasagnes débordantes de béchamel, les tagines de pruneaux et les risottos d'abricots, les raviolis surprises, les frites à volonté, les fromages de brebis, de chèvre et même d'ânesse, sans oublier les desserts, les fontaines de chocolat, les tartes aux fruits des bois, les crêpes au miel accompagnées de jus les plus rares, pamplemousse, fleurs de rose, multibéry. Et bien sûr, des lollipops au parfum nouveau, citron du dragon, barbamama, et, la plus à la mode depuis le précédent birthday, le kilmint.
« Tu veux un grain de riz ? »
demanda Chrysanthe en le piquant délicatement avec sa fourchette. Gulot-Gulot devait peser 3 fois le poids de Chrysanthe et 100 fois celui de Lali.
Non, merci, je mangerai après, je...
Tant pis. Chrysanthe proposa le grain à Lali, qui refusa aussi, et finit par le croquer du bout des lèvres. Gulot-Gulot regardait avec méfiance autour de lui pour s'assurer que personne ne le surveillait. Apparemment, non. Tous étaient occupés à rire et se goinfrer. L'estomac de Gulot-Gulot émit un petit cri. Il posa la main sur son ventre, comme pour lui dire d'attendre encore un peu, puis se pencha vers Chrysanthe.
Je cherche quelqu'un qui sait lire, quelqu'un du tipi.
Chrysanthe mâchonnait avec application son grain de riz.
Ça ne manque pas, on n'est pas tous idiots. Il y a Zizo, Akan, Agnel, Vanille, Cheyenne.
Gulot-Gulot jeta un nouveau regard alentour pour être certain que personne ne les regardait ni ne les écoutait, puis se pencha davantage vers Chrysanthe jusqu'à son oreille.
Je ne leur fais pas confiance.
Chrysanthe piqua un petit pois.
Confiance, pourquoi ?
Gulot-Gulot tremblait. Il se mit soudain à parler très vite.
Il n'y a que toi, Chrysanthe, il n'y a que toi qui sais lire et qui n'ira pas directement porter ce truc-là à la reine ou à son conseiller en fauteuil à roulettes.
Chrysanthe interrogea sa poupée du regard, puis soupira.
Tu parles de quoi, là, Gulot ? Lali et moi, on comprend rien.
Gulot-Gulot ne semblait pas l'avoir écouté. Il vérifia une dernière fois que personne ne faisait attention à eux et s'assit à côté de Chrysanthe, derrière le tronc du cerisier.
Je ne sais pas ce que c'est. Je sais juste que Mortélia le cachait pour que personne ne le lise, et surtout pas les soldats.
Sans laisser le temps à Chrysanthe ou Lali de commenter, il sortit du sac de toile qu'il portait sur l'épaule un livre à la couverture noircie. Chrysanthe en resta le petit pois en l'air. Elle observa les dessins gravés sur la couverture, une lune, une femme, un cercle.
Waouh ! Tu as vu ça, Lali ? Toi aussi, tu as compris ? On dirait bien le 3e livre de Mordélia, celui qu'elle n'a jamais montré à personne.
Prends-le vite !
Étonnamment vive, Chrysanthe attrapa le livre et le fit disparaître sous les plis de sa robe. Gulot-Gulot ne paraissait pas encore soulagé.
« Ne t'inquiète pas, »
fit la jeune fille en croquant son petit pois.
« Lali ne dira rien, et je vais le lire dans un coin discret. »
Gulot-Gulot aurait dû être rassuré, mais une alarme continuait de clignoter dans son cerveau. Même s'il s'était débarrassé du livre le plus vite possible, il avait l'impression que quelqu'un les avait espionnés dans son dos. Il se retourna. À 10 mètres d'eux, l'un des moineaux revenus du camp de Mordélia, l'un de ses vieux copains, Pépin, le regardait, la bouche pleine de pop-corn puisée dans le seau qu'il portait à 2 mains. Avait-il remarqué quelque chose ?
Tant pis,
se força à positiver Gulot-Gulot. Maintenant, il devait oublier ce livre et penser à se nourrir. Ce jour du banquet aurait dû être le plus beau de sa vie. Il adorait le pop-corn, les tartes aux fruits des bois et le cochon sauvage grillé au miel. Le ventre de Gulot-Gulot émit un nouveau cri de détresse. Chrysanthe se tourna vers lui et approcha son assiette avec tendresse.
« T'es sûr que tu veux pas un grain de riz ?